journal Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous. Jouer les prolongations pour évacuer des Afghans. Emmanuel Macron est prêt à négocier avec les talibans. Il veut même créer avec les Anglais une zone de protection humanitaire près de l'aéroport de Kaboul, sous protection des Nations Unies. Primaire ou pas primaire, c'est la question de cette rentrée politique. Chez les Républicains, les militants redoutent le retour de la machine à perdre. PSG Reims en quatrième journée de Ligue 1. La rencontre sera retransmise dans 208 pays du monde. C'est ça aussi l'effet Messi. Puis nous irons à Tokyo pour 3 nouvelles médailles de bronze française aux Jeux Paralympiques. On manque de sang, l'établissement français du sang appelle aux dons d'urgence. Le Covid, là aussi, a changé la donne.
Et puis on parlera cinéma dans le grand entretien avec Bruno Bard et Charlotte Gainsbourg. Lui dirige le Festival du cinéma américain de Deauville. Elle préside le jury. Le festival débute vendredi. Les salles de cinéma ont été désertées début août avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Il repart. Quid de Deauville, quid des films qui y sont présentés, quid aussi du cinéma américain. Que dit-il de l'Amérique d'aujourd'hui? On posera la question à Bruno Bard des Charlotte Gainsbourg à 8h20.
France Inter.
La France cherche à contourner l'infernal compte à rebours en Afghanistan. Les dernières évacuations par les Américains doivent s'achever en principe mardi. Mais Emmanuel Macron veut continuer les opérations, quitte à créer une zone de protection humanitaire à Kaboul du côté de l'aéroport. Et pour cela, il faut négocier avec les talibans. La France ne se désengage pas et le fait savoir Bertrand Galichet.
Malgré le retrait précipité des États-Unis qui s'apprêtent à stopper les opérations d'évacuation en Afghanistan, la France tente de reprendre le flambeau. Emmanuel Macron souhaite poursuivre le pont aérien pour permettre aux Afghans en danger, ceux que la France veut protéger, de partir, quitte à passer par des négociations avec les talibans pour exfiltrer les candidats au départ avec l'aide du Qatar. Une politique assumée hier soir par Emmanuel Macron en visite à Bagdad. Le président reste prudent sur la possibilité de faire sortir ces centaines d'Afghans menacés. Emmanuel Macron explique aussi au journal du dimanche que Londres et Paris vont plaider aux Nations Unies pour la création à Kaboul d'une zone protégée permettant la poursuite des opérations humanitaires sur place. Un projet qui serait placé sous le contrôle de l'ONU afin de maintenir la pression sur les talibans. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité doivent se réunir demain au sujet de la crise afghane. Erbil, Bertrand Galichet, France Inter.
La menace terroriste reste présente du côté de l'aéroport de Kaboul. Elle est précise et crédible pour les 24 à 36 prochaines heures, affirme le président américain Joe Biden. Les talibans, eux, aspirent désormais à contrôler l'aéroport. On retrouve sur place Cyril Payen, envoyé spécial de France 24.
Et oui, il commence à mettre la pression sur fond de propagande anti-américaine. M'entretenir avec Zabihullah Mujahid hier, une interview exclusive avec le porte-parole des talibans qui sera sans doute l'un des ministres du prochain gouvernement. Il mettait une énorme pression sur les Américains, les rendant responsables d'abord de l'attentat. Il disait, ils ont fait venir des milliers d'Afghans pour les exfiltrer. Ils ont favorisé les conditions d'un attentat, donc ça n'engage que lui. Mais aujourd'hui, cette pression, c'est nous allons récupérer l'aéroport, nous avions les moyens logistiques et techniques de faire opérer comme un gouvernement normal un aéroport, dont tout cela est loin d'être vrai, puisqu'ils n'ont pas de pilotes, ils n'ont personne, ils ne savent que se battre. Mais ils mettent la pression sur ces Américains pour que les 5000 soldats qui sont là, les bataillons de parachutistes, et des Marines, eh bien, évacuent bien à la date qui est dit, la date butoir des 31 août.
Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Kaboul. En tout, 112 000 personnes ont été évacuées depuis la prise de pouvoir des talibans. Parmi ceux qui ont pu être exfiltrés figurent des athlètes paralympiques afghans qui viennent d'arriver à Tokyo. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Christelle.
Quel improbable parcours!
C'est sûr, quand Zaki Akhoudadadi enregistre cette vidéo en début de semaine, cet appel à l'aide au monde entier pour aller coûte que coûte aux Jeux Paralympiques parce que c'est leur rêve, on se dit que le chemin va être long et difficile, mais elle y est arrivée avec son compatriote Hossein Razouli. Ils ont mis le pied sur le sol japonais hier soir. C'est l'Australie qui a mobilisé des moyens aériens pour les exfiltrer. Zaki et Hossein sont passés par la France, aussi par l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Dans le 12e arrondissement de Paris, de nombreux athlètes olympiques et paralympiques s'entraînent là-bas tout au long de l'année. Et après ce très long voyage, les voici prêts à concourir. Ils ont reçu le feu vert du Comité international paralympique. Elle en taekwondo jeudi prochain, lui en athlétisme dans le 400 mètres vendredi. À 23 ans, Zakia est un symbole de l'émancipation des femmes en Afghanistan. Elle le montre encore aujourd'hui. Hossein est une victime de guerre. Il a perdu un bras dans l'explosion d'une mine.
C'est une magnifique histoire. Par ailleurs, Guillaume, 3 nouvelles médailles pour la France ce matin.
Deux premières médailles en aviron, du bronze en individuel avec Nathalie Benoît. Nathalie qui a gagné sa place hier en phase de repêchage. Et puis du bronze par équipe avec du 4 avec barreur pour l'équipage mixte. Margot Boulet, Erika Sozo, Antoine Gézel, Rémi Taranto et Robin Le Barreau.
Beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup de joie, beaucoup du soulagement aussi. Parce que c'est beaucoup de pression qui monte au fur et à mesure. Enfin, l'attente d'abord avant que les jeux commencent, puis après les entraînements, puis les séries, les repêches et maintenant la finale.
C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et voilà, on s'est identifié aux indestructibles et je pense que ça a fonctionné. Ouais, on s'est approprié chacun un personnage.
Je pense qu'il faut garder un objectif commun en tête en fait. On a chacun nos personnalités, mais quand on veut tous aller dans la même direction, forcément, c'est pas tous les jours tout rose. Mais au final, il y a la motivation fait qu'on va dans le même sens.
Et puis une autre indestructible, parce qu'il s'appelle comme ça, c'est l'haltérophile Souad Ghazouani en paradéveloppé couché. Elle a soulevé une barre à 132 kilos. C'est la 22e médaille de l'équipe de France.
Guillaume Batin en direct de Tokyo. Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique pourrait s'appliquer aussi au football. Lui est déjà au sommet. Lionel Messi sera, sauf surprise, le dieu du stade à Reims ce soir. C'est la première fois que le prodige argentin porte un autre maillot que celui de Barcelone. Et en soi, évidemment, c'est un événement majeur sur la planète foot. Il devrait être aligné avec Mbappé et Neymar, trois des cinq meilleurs joueurs mondiaux. Une affiche XXL et inédite, Bruno Salomon.
Ce n'est qu'un match de la quatrième journée de Ligue 1, fin août, face à Reims. Et pourtant, cette rencontre va rentrer dans les livres d'histoire du foot comme le jour où Léo Messi a joué son premier match sous un maillot différent que celui du FC Barcelone dans un autre championnat que la Liga espagnole. Un événement mondial qui va être diffusé dans 208 pays. C'est énorme pour un match de Ligue 1. Plus d'une centaine de journalistes des quatre coins du monde est d'ailleurs accrédité. Le stade Auguste Delaune, de son côté, aurait même pu s'en prendre. Problème à accueillir le double de spectateurs et le club de Reims a même vu un marché noir inhabituel pour des tickets qui se sont revendus à plus de 1000 euros pour certains. C'est ça aussi l'effet Messi, une douce folie qui ne s'empare pas que des fans du PSG.
Bruno Salomon, rentrée en ordre dispersé. On parle de politique chez les Républicains dans l'ombre d'une primaire pour la prochaine présidentielle. Valérie Pécresse a promis à Brive de jouer collectif. Deux autres candidats étaient eux à la boule. Xavier Bertrand a séché ce type de rendez-vous. Et les militants ont bien du mal à s'y retrouver. Comme les ténors du parti, ils sont divisés sur la primaire et redoutent la machine à perdre Élodie Forêt.
Il y a les grands brûlés de 2016, traumatisés par la dernière primaire.
Pas de primaire.
Ça laisse,
ça laisse
des traces.
Beaucoup d'amertume.
Brigitte et Michel espèrent une solution à l'amiable.
Il faut absolument que chacun fasse un effort pour qu'il en reste plus qu'un à la fin. C'est comme Koh-Lanta.
Mais comment on choisit? Parce qu'on ne va pas les mettre sur des poteaux.
Ah ben non, mais bon, je pense qu'il faut que chacun y mette du sien. Et après, s'il y en a un qui est élu, ils forment le gouvernement ensemble.
Sophie, élue locale dans le Sud-Loire, le cœur à droite, dit-elle, ne veut pas de primaire, elle non plus, et appelle les prétendants à prendre exemple sur Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau.
Je pense qu'il faut qu'ils oublient en fait leur ego, qu'ils pensent à la France.
C'est compliqué.
Fiona soutenait Laurent Wauquiez, elle est un peu déboussolée.
Moi je vous dis sincèrement, je ne saurais pas pour qui voter actuellement, mais il n'y a pas de candidat naturel, donc au final il va bien falloir passer par une primaire, et je préfère encore qu'on passe par une primaire plutôt qu'on se rallie derrière Xavier Bertrand.
Plutôt la primaire que Xavier Bertrand, un avis large. Largement partagé ici parmi des militants très rancuniers envers le patron des Hauts-de-France.
Personnellement, j'y en veux, oui. Je trouve son attitude prétentieuse et dommageable. Oui.
Des militants plus indulgents avec Valérie Pécresse qui a certes quitté le navire, mais accepte de se plier aux règles qui seront fixées par le parti.
Une parole de militant recueillie par Élodie Forêt. La reconversion de Benjamin Griveaux. Il avait quitté précipitamment la campagne des élections municipales à Paris, on s'en souvient, pour une histoire de vidéo à caractère sexuel. Les biens, l'ancien porte-parole du gouvernement devient présentateur télé sur une chaîne d'information économique. D'après le journal du Dimanche, il monte par ailleurs une société de conseil auprès des chefs d'entreprise. Les stocks de sang au plus bas. L'établissement français du sang lance l'alerte. Le nombre de donneurs a baissé de 10% depuis le début du mois d'août. Il manque plus de 500 dons par jour. Alors en cause les vacances, bien sûr, mais aussi le Covid. Le vaccin interroge. Victor Vasseur, vous êtes rendu dans un point de collecte à Paris.
Une petite dizaine de patients sont assis sur des lits. Certains écoutent de la musique pendant la prise de sang. Une dame lit un livre.
C'est pour ça que je vous mets là. Il faut le garder 2 à 3 heures. D'éviter de fumer et de boire durant les 2 heures qui suivent.
La plupart sont des habitués. Ils viennent très régulièrement, comme Roman, 28 ans.
Aujourd'hui, j'ai emmené mon copain qui a fait un don du sang pour la première fois. Ça dure 10 minutes. Et en sachant qu'un don de sang, ça sauve en moyenne 3 vies, bon, ça peut être cool. Ça peut être moteur.
Mais faut-il un pass sanitaire pour donner son sang? Sabine s'est posé la question avant de venir.
Je me suis fait vacciner là récemment.
J'ai appelé, justement, après ma vaccination, j'ai appelé pour voir si c'était possible. Et ils m'ont dit non, c'est sans problème.
Il y a moins de donneurs, mais aussi moins de collectes, regrette Geneviève Voimant. Elle est la médecin responsable de la maison du don de Cabanel à Paris.
Le problème que nous avons, c'est qu'il y a des tas de collectes qui sont annulées, des collectes mobiles, dans les universités, dans les écoles, dans les mairies, enfin dans tous les endroits où on va réquisitionner les locaux pour faire de la vaccination. Ah oui, la collecte mobile apporte au moins 80% des réserves de sang au niveau national.
En plus d'être en manque de donneurs de sang, l'EFS est en manque de bras. 160 postes d'infirmiers et de médecins sont à pourvoir.
Un rappel, le pass sanitaire sera obligatoire dès demain pour 1 800 000 salariés qui sont en contact avec le public. Ils travaillent dans la restauration ou encore dans les cinémas. En tout cas, il n'a pas pénalisé la SNCF cet été, ce pass sanitaire. On est presque au niveau de fréquentation de 2019, explique ce matin le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. 22 millions de voyageurs ont pris le train pendant ces vacances. Ils sont encore nombreux dans les gares aujourd'hui pour les ultimes retours avant la rentrée. Allez, courage.
Courage à eux et merci Christelle Robière. Le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel Golinski.
Des températures qui restent globalement basses dans la moitié nord du pays, plus douces sur les régions méridionales avec cet après-midi 19 à 20 degrés le long de la Manche. Il est prévu jusqu'à 29 sur le Languedoc et le Roussillon. Le maximum de la journée sera de 20 à 22 du nord de la Loire au nord-est, 23 sur le Limousin et en Rhône-Alpes, 25 à 27 des Charentes à la Garonne et 28 degrés en basse vallée du Rhône avec un mistral et une tramontane vers 60 km/h. Le temps sensible va conserver la même image qu'hier avec toujours pas mal de soleil près de l'océan et de l'Aquitaine à la Provence. Un ciel un peu plus variablement nuageux entre Rhône-Alpes, le centre Val-de-Loire et la Normandie et une ambiance souvent beaucoup plus chargée entre le Val-de-Saône, le Grand Est et le nord de la Seine avec pour ces régions des ondées possibles et un vent de secteur nord toujours bien marqué.